Les cours du Collège de France, Didier Fassin, chaire questions morales et enjeux politiques dans les sociétés contemporaines.
Je vous rappelle donc après cette deuxième leçon, il y aura une pause comme cette fois-ci, et ensuite donc nous aurons une intervention de Raphaël Branche sur la violence autour de la violence coloniale. Raphaël Branche, donc, qui est professeur à l'université de Paris-Nanterre et qui est historienne. Donc, je vous invite vraiment à rester parce qu'elle approfondira beaucoup plus que moi et sur la base d'un travail d'archives qui n'est pas celui que je vous ai présenté, ces questions de violence coloniale. Donc, je vous invite. Et puis, comme vous le savez, après son intervention, vous pourrez il y aura un temps d'échange avec vous qui pourra être soit sur l'exposé qu'elle présentera, soit sur les leçons que je fais. L'écriture et la représentation de la violence peut obéir, on l'a vu, à diverses logiques littéraires, artistiques, religieuses, politiques, médicales, et avoir de multiples fonctions poétiques, esthétiques, mystiques, militantes, thérapeutiques. La raison d'être probablement la plus commune de l'écrire et de la représenter est toutefois de l'attester. L'urgence en est d'autant plus grande que la réalité est invisibilisée. Reconsidérons les deux faits précédemment étudiés, la violence coloniale dont j'avais parlé à propos du Congo belge, et la violence guerrière que j'avais analysée autour de la Première Guerre mondiale et de la guerre contre Gaza, pour donner deux illustrations des tentatives contemporaines de les attester. Alors que la colonisation fait l'objet en France d'un révisionnisme allant jusqu'à faire voter une loi en 2005 obligeant les programmes scolaires, je vous le rappelle, à reconnaître le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et les sacrifices des combattants de l'armée française issus de ces territoires. Donc, dans ce contexte, la première guerre d'Algérie, livre publié en 2024 par l'historien Alain Russio, rappelle les spoliations de terres, les déplacements de population, les massacres de villageois, les enfumades de grottes, les centaines de milliers de morts, surtout des civils, toutes exactions conduites par le corps expéditionnaire français dans le geste inaugural d'une conquête coloniale qualifiée de pacification. Et tandis que l'expulsion, pour prendre le second exemple, de 750 000 Palestiniens, soit environ la moitié de la population arabe de ce territoire, qui a donné lieu à la destruction de villages et dans certains cas du meurtre de leurs habitants, a longtemps été absente de l'enseignement de l'histoire de la création de l'État d'Israël et continue d'être largement ignorée, dans son film « Partition » de 2025, qui prolonge son ouvrage « Voices of the Nakba »,« Voix de la Nakba », qui était paru 4 ans plus tôt, l'anthropologue et réalisatrice Diana Allan tente de restituer l'expérience de la Nakba à travers les images spectrales des archives coloniales du mandat britannique, accompagnées des paroles et des chants des Palestiniennes et des Palestiniens qui ont vécu cette tragédie. De façon très différente, donc, ces deux entreprises visent à attester de ce que la France et Israël ont enfoui, souvent, dans les profondeurs de l'oubli. S'il est en effet parfois de l'intérêt de l'auteur de violence, qu'il s'agisse d'un individu ou d'une nation, de la montrer, de l'exposer, de la mettre en spectacle, et ce, avec des motivations variées allant de la jouissance de l'exercice de la force à la production d'un régime de terreur, il y a souvent un intérêt plus grand encore à la dissimuler, à la déguiser, à la nier, et ce pour éviter de devoir en rendre compte, de se voir condamné moralement et de prendre le risque de se trouver sanctionné par un tribunal. Dans ces cas en particulier, il est important pour les personnes ayant subi cette violence et leurs proches, mais également pour celles et ceux qu'on peut appeler des entrepreneurs de justice, avocats, militant de droits humains, membre de groupes affectés, occasionnellement chercheur en sciences sociales, d'apporter la preuve qu'une violence a bien été commise, d'en donner les circonstances et les responsables. Selon les cas, cette attestation sera présentée devant un magistrat, dans l'espace public, au sein d'une association de victimes ou simplement à celles et ceux intéressés à connaître les faits. Attester la violence, c'est donc combattre le déni, l'occultation, le mensonge, le révisionnisme historique. Attester la violence, c'est en porter témoignage, c'est s'en faire le témoin. C'est donc ce travail de témoignage et la figure du témoin qui lui est associée que je vais explorer, à partir d'une enquête philologique prolongée par des études de cas autour de la destruction des Juifs d'Europe, du génocide des Tutsis, de la révolte de l'Intifada. Dans son volumineux « Vocabulaire des institutions indo-européennes » publié en 1969, le professeur de grammaire comparative du Collège de France, Émile Benveniste, distingue à partir du latin deux manières de désigner et de concevoir le témoin, « testis » et « superstes ». D'un côté, écrit-il, étymologiquement, « testis » est celui qui assiste entière à une affaire où deux personnages sont intéressés. Ayant été présent au moment où les faits se sont produits, le testis est donc en mesure de les attester. Sa parole peut être utilisée pour trancher un litige, à condition qu'il soit établi qu'il n'était pas lui-même partie prenante de cette interaction. Mais d'un autre côté, ajoute l'auteur, superstes décrit le témoin comme celui qui subsiste au-delà, témoin en même temps que survivant. C'est d'avoir vécu lui-même les faits, notamment lorsqu'ils impliquent un danger ou une épreuve, et d'avoir survécu à ce péril, à cette adversité, qui l'autorise à attester. Il peut en témoigner non pour y avoir assisté, mais pour en avoir l'expérience. Et même si en latin il existe en fait un certain recouvrement entre les usages de ces deux mots, la différence de sens est donc significative d'un point de vue analytique. Elle permet d'identifier deux configurations idéales typiques. Dans le cas de la violence, le testis est extérieur à la scène, alors que le superstes en est la victime. L'observation du premier est présumée objective, même s'il est souvent considéré nécessaire de croiser plusieurs témoignages pour déterminer la vérité sur les faits. Le récit du second est nécessairement subjectif, ce qui n'entache pas pour autant, bien sûr, d'un soupçon. Cette distinction entre le testis et le superstes, je vais la mettre à l'épreuve de la littérature sur la Shoah, au cours de laquelle on estime que 6 millions de Juifs ont trouvé la mort, tandis que le génocide des Roms a pu faire jusqu'à 500 000 victimes, que les commémorations tendent à oublier. L'historien Pierre Vidal-Naquet, dont on sait combien son œuvre est marquée par la dénonciation du négationnisme, remarquait dans un texte intitulé « Qui sont les assassins de la mémoire ?», rédigé en 1992, je le cite, « L'histoire de la destruction des Juifs et des Tziganes n'est pas quelque chose dont les nazis se sont vantés. En un sens, ils en étaient fiers, mais ils ont eu conscience que c'était quelque chose de tellement exceptionnel qu'ils devaient le dissimuler non seulement aux victimes, dont le consentement était en somme sollicité, non seulement vis-à-vis des peuples au milieu desquels vivaient les Juifs, soit comme étrangers, soit comme citoyens, mais vis-à-vis du peuple allemand et vis-à-vis d'eux-mêmes. » Déjà dans Eichmann à Jérusalem, initialement paru en 1963 dans la revue The New Yorker, Hannah Arendt soulignait comment les termes utilisés par les responsables nazis pour parler de l'extermination physique des Juifs obéissaient à ce qu'elle appelle des règles de langage que, dit-elle dans le parler ordinaire, on appellerait un mensonge. Ainsi, plutôt que de parler de meurtre de masse ou d'élimination, on utilisait les expressions Endlösung, solution finale, ou même Sonderbehandlung, traitement spécial, ou encore Aussiedlung, évacuation. D'ailleurs, selon Adolf Eichmann, ces mots ne signifiaient pas l'annihilation physique, mais pouvaient se référer à la dite germanisation des Polonais ou à la déportation des Juifs à Madagascar. Pour Hannah Arendt, je la cite, l'effet exact produit par ce système de langage n'était pas d'empêcher les gens de savoir ce qu'ils faisaient, mais de les empêcher de mettre leurs actes en rapport avec leur ancienne notion normale du meurtre et du mensonge. En somme, de rendre mentalement acceptable ce qui aurait pu leur paraître moralement intolérable. Mais pour Pierre Vidal-Naquet, ce qu'il appelle un langage codé permet aussi toutes les dénégations, et de fait les révisionnistes qui, tels Roger Forisson, ont contesté l'existence des chambres à gaz, l'ont fait précisément sur cette base. Autrement dit, l'euphémisation linguistique n'a pas seulement eu sur le moment un effet anesthésiant sur la conscience des participants au génocide, mais également dans le long terme, un effet facilitateur sur la manipulation des faits par les négationnistes. C'est ce que prédisaient les nazis dans les camps d'extermination, comme l'écrit Primo Levi dans la préface de son livre « Les naufragés et les rescapés » publié 40 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il écrit « De nombreux survivants se souviennent que les SS trouvaient plaisir à avertir cyniquement les prisonniers. De quelque façon que cette guerre se finisse, nous l'avons déjà gagnée contre vous. Aucun d'entre vous ne restera pour porter témoignage, mais même si quelques-uns en réchappaient, le monde ne les croira pas. Il n'y aura pas de certitude, car nous détruirons les preuves en vous détruisant. » Cette pensée hantait tellement les prisonniers que nombre de celles et ceux qui parmi eux sont revenus des camps ont raconté comment pendant leur captivité un cauchemar revenait sans cesse, dans lequel de retour chez eux ils racontaient leur expérience à un proche qui, ne les croyant pas, se détournait d'eux sans plus les écouter. D'où l'importance pour les survivants qui en ont eu le temps et la force d'apporter leur témoignage. Durant les premiers jours qui ont suivi notre retour, nous avons été tous, je pense, en proie à un véritable délire. Nous voulions parler, être entendus, enfin, écrit dans L'Espèce humaine, publié en 1957, le résistant détenu à Buchenwald, Robert Antelme. Signe que les nazis redoutaient cette perspective, ils ont non seulement brûlé les archives des lagers, mais aussi, alors que les troupes alliées progressaient, organisaient des transferts de prisonniers exténués et squelettiques, dont beaucoup sont morts pendant le trajet, et ce, afin de ne pas laisser de traces vivantes de leurs crimes. Attesté. Telle était donc l'intention de Primo Levi lorsqu'il écrivit dans les mois qui suivirent la libération des camps « Sequesto è un uomo », ouvrage qui sera publié en 1947 par un petit éditeur avec un faible tirage, mais qui ne rencontra guère de succès jusqu'à sa réédition en 1958 par Einaudi, qu'il avait refusé 11 ans plus tôt. Suivi par des traductions en anglais, en allemand, en français, sous le titre altéré « J'étais un homme » en 1961, avant que la formule originale ne soit restituée après plus d'un quart de siècle en 1987, « Si c'est un homme ». Le poème de l'auteur qui donne son titre au livre se termine par ces vers « N'oubliez pas que cela fut, non ne l'oubliez pas, gravez ces mots dans votre cœur, pensez-y chez vous, dans la rue, en vous couchant, en vous levant, répétez-les à vos enfants ou que votre maison s'écroule, que la maladie vous accable, que vos enfants se détournent de vous. » Injonction que reprend la formule controversée du devoir de mémoire. Jeune résistant fait prisonnier en décembre 1943 à Brusson, qui est le village de mon grand-père, dans le Val d'Aoste, par des miliciens fascistes auxquels il dit qu'il est juif italien en pensant éviter la torture et la mort réservée aux partisans. Primo Levi est alors envoyé à Auschwitz dans un convoi de 650 hommes, femmes et enfants juifs, dont plus de 500 sont immédiatement conduits dans la chambre à gaz du camp. Mais quatre décennies plus tard, évoquant le propos d'un ami qui lui dit qu'il a survécu pour porter témoignage, il ne peut s'empêcher de ressentir une profonde gêne. « Nous, les survivants, ne sommes pas les vrais témoins, observe-t-il, car nous sommes ceux qui, grâce à la prévarication, l'habileté ou la chance, n'ont pas touché le fond. » Ceux qui ont eu cette expérience ne sont pas revenus pour raconter ou sont revenus muets. Mais ce sont pourtant eux, les musulmans, les engloutis, qui sont les témoins intégraux, ceux dont la déposition aurait eu une signification générale. Le mot « musulman », dont l'origine est mal connue, désignait dans les camps ceux tellement affaiblis que les autres les ignoraient, les sachant destinés à mourir prochainement. Le témoignage des survivants, même s'ils s'efforcent de rendre compte de la condition tragique de ces disparus, n'en reste donc pas moins, pour Primo Levi, je le cite, le récit de choses vues de près, non vécues à notre propre compte. Et on sait combien est douloureusement éprouvée la culpabilité des survivants, précisément parce qu'ils ont survécu quand les autres sont morts. La réflexion éthique de Primo Levi met ainsi à l'épreuve la distinction entre le testis et le superstes. D'un côté, il est incontestable qu'il témoigne à partir de son expérience, en tant que survivant d'un camp d'extermination, duquel il n'aurait jamais dû, statistiquement du moins, revenir. Il est un superstes. Dès le début de son premier récit, ayant raconté les 4 jours de leur voyage dans un train de marchandises sans eau ni nourriture, leur arrivée de nuit hébété dans un lieu inconnu où seule une minorité d'entre eux n'est pas envoyée à la mort, le confinement pendant plusieurs heures dans une salle où ils se tiennent nus sur un sol inondé et glacial après avoir été rasé, la course dans la neige, des vêtements loqueteux à la main sous les hurlements des gardiens jusqu'à rejoindre un baraquement où ils peuvent enfin s'habiller, ils notent « Alors, pour la première fois, nous apercevons que notre langue manque de mots pour exprimer cette insulte, la démolition d'un homme. » En un instant, dans une intuition quasi prophétique, la réalité nous apparaît, nous avons touché le fond, il est impossible d'aller plus bas. Mais d'un autre côté, il est conscient que jamais il ne pourra restituer l'expérience de tous ceux qui ont été dévorés par cette monstrueuse machine de mort et dont il ne peut parler qu'en tant que tiers. Il est donc un testis. Et 40 ans après son premier livre, il dit « Nous, nous parlons à leur place, par délégation. Je serai incapable de dire si nous l'avons fait ou si nous le faisons, par obligation morale envers ceux qui se sont tus. Au contraire, pour nous délivrer de leurs souvenirs, la chose certaine, c'est que nous le faisons en obéissant à une impulsion puissante et durable. » Le rescapé qui raconte la vie et donc aussi la mort, et même la longue agonie qui la précède dans le lager, est à la fois superstes et testis. C'est peut-être dans le livre « La trêve » publié en 1963 à travers l'évocation après la libération d'Auschwitz dans un hôpital de campagne russe de, je cite, « la présence obsédante, impérieuse et fatale du plus petit et du plus désarmé d'entre nous, un enfant, Urbinek », que les deux figures du témoin se trouvent tragiquement réconciliées. Âgé de 3 ans, paralysé des membres inférieurs, le visage émacié mais les yeux vifs, le petit garçon ne parlait pas car personne ne lui avait appris. Primo Levi écrit « Le besoin de parole jaillissait dans son regard avec une force explosive, un regard à la fois sauvage et humain, un regard adulte qui jugeait que personne d'entre nous n'arrivait à soutenir tant il était chargé de force et de douleur. » Mais un jour, le jeune Hongrois, qui l'avait pris sous sa protection, le nourrissait, le lavait, lui parlait, signala que l'enfant avait prononcé un mot, quelque chose comme « masklo », que personne parmi les rescapés de multiples origines ne comprenait. Chacun s'efforça alors de déchiffrer les quelques sons indistincts que le petit garçon s'efforçait inlassablement d'émettre. On ne peut manquer de voir dans cette figure spectrale l'incarnation à la fois de l'impossibilité de dire ce qu'est l'expérience des camps à travers l'articulation de mots incompréhensibles et la tentative désespérée d'en communiquer malgré tout quelque chose. Et Primo Levi termine ainsi la brève évocation de l'enfant dont le minuscule avant-bras portait le tatouage d'Auschwitz par une sobre nécrologie. Urbinek mourut les premiers jours de mars 1945, libre, mais non racheté. Il ne reste rien de lui. Il témoigne à travers mes paroles. Ainsi, par le langage retrouvé, le superstes devenu testis sauve du néant la mémoire du petit garçon. L'importante littérature portant sur les camps d'extermination atteste non seulement de ce qu'ils furent et de ce qu'ils vécurent, celles et ceux qui y ont été exposés à la déchéance et souvent à la mort, mais elle atteste également la volonté des rescapés de transmettre cette expérience. Double témoignage donc d'une réalité et d'une nécessité. Les récits mettent cependant en œuvre des styles et des temporalités très différentes. À la fois superstes et testis, chacun dit à sa manière la violence extrême de l'entreprise nazie. Certains ont écrit et publié leurs témoignages presque immédiatement. Ainsi, le militant trotskiste David Rousset fait paraître dès 1946 « L'univers concentrationnaire », ouvrage qui rencontre un succès immédiat, remportant même le prix Renaudot, fait remarquable dans un temps où les sociétés européennes ne veulent guère savoir ce qu'a été le processus d'extermination auquel plusieurs pays ont apporté leur concours. Cette reconnaissance tient probablement au fait que l'auteur crée par une forme de recherche esthétique une distance qui neutralise les émotions. Son écriture est âpre et ironique. Il use de formules elliptiques et tranchantes, parfois caustiques et troublantes. Ainsi, à propos d'un homme décharné, brutalisé, qui sollicite son aide, il écrit « Ses yeux me suppliaient avec, comme pour tous, cette terreur folle au fond du regard. Il me dit qu'il était avocat à Toulouse et j'eus toutes les peines du monde à ne pas éclater de rire. » Des quatre lagers par lesquels il est passé en tant que prisonnier politique, il souligne dans son provocation l'absurdité. Il écrit encore « Les camps sont d'inspiration ubuesque. Buchenwald vit sous le signe d'un énorme humour, d'une bouffonnerie tragique. La cruauté des capots, ces prisonniers de droit commun porteurs d'un triangle vert auquel est délégué le maintien de l'ordre, est décrite comme un rituel. Il écrit « Les hommes verts sont les grands maîtres de ces cérémonies, les prêtres cyniques de ces expiations. Sur les chantiers, ils saoulent de cris et d'injures les têtes affolées, piétinent et tuent les révoltes naissantes. Ils se nourrissent de délices incertaines à creuser de coups les corps soumis. » Et la rapacité de la bureaucratie nazie, elle, est rendue par une abjection. Et il écrit « Les seigneurs SS ont des désirs. Les détenus sont des excréments. Mais on peut encore faire de l'argent avec de la merde, et même de très grosses sommes. » Autant d'excès, de métaphores, de références littéraires, d'annotations sardoniques qui désorientent le témoignage. D'autres rescapés ont également consigné leurs souvenirs dans les mois qui ont suivi leur libération, mais n'ont fait paraître leur livre que bien plus tard, telle Charlotte Delbault, dont le livre « Aucun de nous ne reviendra », premier volume de ce qui deviendra la trilogie « Auschwitz et après », est rédigé sous la forme d'un brouillon après sa sortie du camp, puis repris près de 20 ans plus tard pour être publié en 1965. Résistante communiste, l'une des 49 survivantes d'un convoi de 230 femmes déportées politiques, elle commence son livre non par son expérience personnelle, mais par le spectacle affligeant des trains remplis de femmes, d'hommes et d'enfants juifs entrant dans le camp. Elle écrit « Une gare où ceux qui arrivent ne sont jamais arrivés, où ceux qui sont partis ne sont jamais revenus. C'est la plus grande gare du monde. » Mais ces prisonniers, dit-elle, ne savent pas ce qui va leur advenir. Ils attendent le pire, ils n'attendent pas l'inconcevable. Comment alors dire cet inconcevable? Parfois, ce sont des poèmes presque aussi courts que des haïkus. Tous étaient marqués au bras d'un numéro indélébile, tous devaient mourir nus, le tatouage identifiait les morts et les mortes. Ailleurs, ce sont des récits de scènes minuscules. Un homme qui ne peut plus suivre, le chien le saisit au fondement, l'homme ne s'arrête pas, il marche avec le chien qui marche derrière lui sur deux pattes, la gueule au fondement de l'homme, l'homme marche, il n'a pas poussé un cri, le sang marque les rayures du pantalon. Certains passages se terminent par deux curieuses brèves phrases « Essayez de regarder, essayez de voir », formule qui dit à la fois le spectacle intolérable, car selon l'ultime phrase du livre, aucun de nous n'aurait dû revenir, et pourtant le témoignage indispensable. À côté de la description minutieuse de si c'est un homme, de l'analyse glaçante de l'univers concentrationnaire, de l'écriture fragmentaire d'aucun de nous ne reviendra, d'autres voix sont inventées, déplaçant le regard, faisant entendre d'autres manières. Ainsi, l'écrivain hongrois Imre Kertész, lauréat du prix Nobel de littérature 2002, propose dans « Être et destin », récit commencé dans les années 1960 et publié seulement en 1985, dans une relative indifférence de la critique, une sorte d'anti-mémoire. Il relate en effet son internement à l'âge de 15 ans à Auschwitz puis à Buchenwald. En s'efforçant de retrouver la naïveté déconcertée de ses impressions, le regard étonné d'un adolescent qui, au moins dans un premier temps, ne comprend pas ce qui se passe. Tout au début, je me sentais, comme un visiteur en prison, Il décrit ainsi sa découverte de l'entreprise de mort nazie. À ce moment, notre attention fut attirée par l'odeur. J'aurais du mal à la définir, elle était douceâtre, en quelque sorte gluante. Il en décèle aisément l'origine. C'était une cheminée d'usine, mais beaucoup ont su tout de suite que c'était une tannerie. Il apprend toutefois qu'il s'agit en fait d'un crématorium destiné à l'incinération des corps des morts de dysenterie, dit la rumeur, mais en apercevant toute une série de semblables cheminées fumantes, un doute s'immisce parmi les prisonniers. Il écrit « Il se demandait, à juste titre selon moi, si l'épidémie était importante au point de faire autant de morts. » Il finit pourtant par réaliser petit à petit ce qui se joue. Là-bas, en face, brûlaient nos compagnons de voyage, tous ceux qui avaient voulu monter dans les camions, ceux qui s'étaient avérés inaptes aux yeux du médecin, de même que les petits-enfants, leur mère. Au bout de quelques mois, affaibli, dénutri, couvert de vermine, il constate sa détérioration physique. Il écrit « J'étais ébahi par la vitesse, l'allure effrénée à laquelle jour après jour diminuait, mourait, fondait et disparaissait la matière qui recouvrait mes os, l'élasticité, la chair. Chaque jour, j'étais surpris par une nouvelle difformité sur cette chose de plus en plus étrange et étrangère qui avait été jadis un bon ami, mon corps. » Et c'est alors la descente dans la déchéance ultime, celle des musulmaneurs, agonie qu'il décrit sans pathos, comme si la distance temporelle de l'écriture lui permettait d'atteindre à la banale vérité des camps qui, même lorsqu'ils n'étaient pas d'extermination, conduisaient la plupart de leurs détenus à la mort. C'est toutefois au moment du tri final des mourants entre ceux que l'on conduit à la chambre à gaz et ceux auxquels on accorde le répit de l'infirmerie qu'il a un ultime sursaut. Il écrit « Malgré la réflexion, la raison, le discernement, le bon sens, je ne pouvais pas méconnaître la voix d'une espèce de désir sourd qui s'était faufilé en moi, comme honteuse d'être si insensée et pourtant de plus en plus obstinée. Je voudrais vivre encore un peu dans ce beau camp de concentration. » Survivant, il sera donc, et longtemps après, il racontera son récit, pouvant être lu comme un témoignage limite d'un rescapé revenu, lui, des confins de la mort. À l'opposé de cette littérature de la Shoah, l'universitaire autrichienne spécialiste de littérature allemande à l'Université de Californie à Los Angeles, Ruth Klüger, qui a été internée à l'âge de 11 ans avec sa mère à Theresienstadt, puis à Auschwitz, et a émigré après la guerre aux États-Unis, n'a fait référence à son adolescence dans les camps qu'en 1992, quand après un accident dans une rue nommée de façon coïncidente Judenstrasse, la rue des Juifs. Elle affronte son passé dans l'ouvrage « Weiterleben, eine Jugend », qui est traduit, là encore, sous forme d'une trahison, par « Refus de témoigner une jeunesse ». Mais si elle écrit, alors c'est moins pour en restituer le souvenir que pour dire sa méfiance à l'égard de la multiplication des témoignages de rescapés et son refus de se laisser enfermer dans sa condition de déporté. Il y a donc quelque chose à la fois de spécifique et pourtant d'indéterminé dans ces récits des victimes du nazisme. Spécifique car, quand bien même les autrices et les auteurs s'efforcent de s'élever au-dessus du particulier pour penser le système et ses logiques, il s'agit bien de partir d'un vécu individuel. Et indéterminé cependant, car face à l'incommunicabilité abyssale de ce qu'ils ont traversé, il leur faut trouver les mots, la forme, une écriture, sans qu'il y ait de règles définies, puisque chacun invente sa propre manière d'écrire. Mais pour l'immense majorité des survivants, il faut accepter de n'être ni superstes, ni testis, et donc se taire. Il existe d'autres figures du témoin, d'autres manières de témoigner. Il y a d'abord l'auctor en latin, dont le dictionnaire Gaffio indique les deux significations. Il est d'une part celui qui augmente la confiance, le garant, la source et donc l'autorité. Et d'autre part celui qui pousse à agir, l'instigateur, le créateur et donc l'auteur. Double dimension par conséquent, en tant que source, il fonde l'autorité de l'historien. En tant que créateur, il est l'auteur de l'histoire. Et puis il y a ensuite l'histor, en grec, dont le dictionnaire Bailly fournit plusieurs sens. Il est celui qui sait, qui connaît, par suite plus spécifiquement celui qui connaît la loi, ultérieurement l'historien. Et bien que les deux mots, auctor et histoire, qui ont deux étymologies distinctes, semblent dériver de verbes assez éloignés, le premier se référant à l'idée de créer, le second à l'idée de savoir. Tous deux renvoient à la notion de celui qui a l'autorité et la connaissance pour établir les faits. L'auctor et l'histor sont des témoins qui ne les ont pas vécus, ces faits, qui n'y ont pas assisté, mais qui peuvent en être les garants et donc les attester. Ici, on peut, au moins sous une forme idéale typique, car les usages latins et grecs varient dans le temps et selon les auteurs, distinguer deux fondements du témoignage de celui qui n'a pas eu l'expérience personnelle ou visuelle des faits. Le crédit pour l'auctor et l'enquête pour l'histor. Le témoin et le garant, l'auctor latin, et le meilleur témoin sera évidemment celui qui se trouvera détenir la plus grande autorité, écrit l'historien François Hartog, à propos de la manière dont Flavius Joseph affirme l'authenticité de son propos dans son livre intitulé « La guerre des Juifs » en se réclamant de la signature apposée par l'empereur Titus sur son livre. À l'inverse, commentant la façon dont Hérodote établit la véracité de ce qu'il a rassemblé dans ses histoires, titre de son livre, tome de son livre, à partir d'entretiens menés aussi bien parmi les Grecs que parmi les barbares, il souligne cette autre François Hartog souligne cette autre source de légitimation. Il écrit « Cette enquête garde quelque chose de la prise en compte des deux côtés qui était la raison d'être de l'ancienne histoire. » Ce sont donc là deux fondements du témoignage. L'autorité, autrement dit une qualité sociale, qui établit le crédit qu'on peut lui accorder, qui dépend bien sûr du crédit qu'on accorde aussi à celui qui le produit. Et la connaissance, autrement dit un travail empirique qui s'appuie sur une enquête menée de manière supposée impartiale. Les historiennes et historiens contemporains, lorsqu'ils se font les témoins de la violence, et notamment de la violence extrême, réunissent souvent les deux dimensions. Ils bénéficient du crédit de leur discipline, de leur position, de leur institution, et ils s'appuient sur des enquêtes menées dans des archives ou par des entretiens. Mais là encore, les lignes de partage sont moins nettement tracées que l'étymologie et la philologie ne le laissent supposer. Pour une part, l'auctor ou l'histor alimentent leur témoignage des récits de celles et ceux qui ont vécu les événements, comme superstès donc, et de celles qui y ont assisté en observateur, comme testis donc. Ce que montrent les écrits produits sur le génocide des Tutsis du Rwanda en 1994, qui a causé la mort d'au moins 800 000 hommes, femmes, enfants, en seulement 3 mois. Le livre de Jean Hatzfeld, Dans le nu de la vie, paru 6 ans après les faits, rassemble une série de récits d'hommes et de femmes, surtout de femmes, de Ntarama, une ville martyre située dans une région de collines, hommes et femmes qui ont survécu au massacre de 50 000 de leurs parents, de leurs amis, de leurs voisins, pour beaucoup assassinés dans l'église où ils s'étaient réfugiés et pour la plupart dans les marais avoisinants où ils se terraient. L'auteur distingue son travail de celui de l'historien. Il écrit « L'histoire du génocide rwandais sera longue à écrire, cependant l'objectif de ce livre n'est pas de rejoindre la pile d'enquêtes, documents, romans, parfois excellents, déjà publiés. Uniquement de faire lire ces étonnants récits de rescapés. » À la fois journaliste et écrivain, Jean Hatzfeld peut s'appuyer sur cette double autorité d'un homme qui a été correspondant de guerre dans plusieurs conflits, ce qui lui donne une expertise sur la violence et les terrains difficiles, et qui a publié plusieurs livres, qui lui ont valu d'être récompensé par des prix. Il s'autorise ainsi à rencontrer les survivants, à, dit-il, les convaincre de raconter, alors même qu'ils ont choisi de garder le silence, une attitude probablement moins énigmatique qu'il ne le suppose, puisque ces personnes lui expliquent ne pas souhaiter revenir sur ce traumatisme collectif, vouloir désormais se tourner vers le futur, ressentir de la gêne pour avoir repris une vie presque normale, éprouver de la réticence à l'idée de devoir se confier à un étranger. Mais ils finissent, pour certains du moins, par accepter de parler. Auteur de 5 livres de témoignages sur le génocide, Jean Hatzfeld est ainsi l'auctor, le témoin par procuration, qui atteste ce qu'a été et ce qu'est encore, des années plus tard, l'expérience de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants qui ont vécu le massacre dans cette bourgade, dont presque tous les habitants tutsi ont été tués à coups de machettes et de gourdins, ou brûlés vifs, pour certains. Les récits recueillis sont rédigés à la première personne, mais il est clair qu'ils sont entièrement écrits par une troisième personne, l'auteur, qui, tout en s'efforçant de respecter certaines expressions de ses interlocuteurs, a transformé en une narration continue et didactique destinée à un public large des fragments de conversation autour d'une bière ou d'un vin de banane, comme il le raconte dans l'introduction. Histoire de Cassius, écolier et berger de 12 ans. Assommé lors de la tuerie dans l'église et transporté dans la brousse où des poursuivants l'ont découvert, dissimulé sous des branchages, et lui ont infligé une profonde blessure à la tête qui le laisse inconscient, le garçon raconte. D'abord, je devais être mort et puis j'ai insisté pour vivre. Je ne me souviens pas comment une dame de passage du prénom de Mathilde m'a trouvé et emporté dans une cachette sous des umuzenze. Les umuzenze sont des arbres géants. Tous les soirs, elle venait m'apporter de l'eau et des aliments. Cette bienfaitrice tutsi a peu après été poignardée par son mari Hutu lorsqu'il a appris qu'elle avait aidé l'enfant. Ce dernier a finalement été recueilli et soigné par une tante. Histoire de Jeannette, agricultrice et couturière de 17 ans. S'étant enfuie avec sa mère et ses deux sœurs après que son père et son frère avaient été tués, la jeune femme se souvient. Un jour, les Interahamwe ont déniché maman sous les papyrus. Elle s'est levée, elle leur a proposé de l'argent pour être tuée d'un seul coup de machette. Ils l'ont déshabillée pour prendre l'argent noué à son pagne, ils lui ont coupé les deux bras et ensuite les deux jambes. En fait, probablement pour prolonger la souffrance, les mutilations sont incomplètes et la mère agonise pendant 3 jours en disant au revoir à ses filles, elles aussi blessées. Plus tard, les 3 herfolines s'abritent dans la maison détruite et pillée d'un oncle. Ce sont là les 2 premiers de 14 récits bouleversants pour lesquels Jean Asfel se fait le porte-voix de celles et ceux qui ne voulaient pas parler et qui, si même il l'avait fait, n'auraient pas pu être entendus, au moins au-delà des frontières du Rwanda. C'est donc par l'autorité de l'Auctor, celui qui se porte garant, que ces témoignages de survivants peuvent exister. Tout autre est le projet intellectuel de la chercheuse et du chercheur en sciences sociales qui s'efforce de restituer les faits et de les interpréter en s'appuyant sur des archives nationales ou étrangères, des jugements rendus par des juridictions internationales, des articles de journaux locaux, des entretiens avec des personnes occupant des positions différentes, des observations de procès dans le cadre des GAKAKA, ces tribunaux villageois d'inspiration traditionnelle qui ont permis de statuer sur le cas de 2 millions d'accusés, et une présence à des cérémonies commémoratives du génocide dont le 30e anniversaire a donné lieu à 100 jours de deuil national. La plupart de ces travaux s'efforcent de rendre compte des événements dans la perspective d'une histoire longue de la région des Grands Lacs à la fin du 19e siècle. Ce sont notamment les ouvrages de Gérard Prunier qui soulignent la construction coloniale des catégories raciales comme prélude au génocide, de Jean-Pierre Chrétien qui analyse le rôle des médias dans la préparation et l'exécution des génocides, d'André Guichaoua, qui concentre son enquête sur le génocide dans la ville de Boutaré. Dans son livre de 2001, « When Victims Become Killers », « Quand les victimes deviennent des tueurs », le politiste ougandais, professeur à l'Université de Columbia, Mahmoud Mamdani, qui a longtemps dirigé l'Institut de recherche sociale de Makerere, interprète le génocide des Tutsis à la lumière de l'histoire coloniale, comme d'autres l'ont fait, mais en insistant sur 2 types d'identités politiques, il faudrait plutôt dire d'identification politique, à savoir le settler, le colon, et le native, l'indigène, qui selon lui déterminent 2 types de génocide. D'un côté, le génocide conduit par les colons a pour paradigme l'anéantissement des Hereros par les Allemands en 1904 dans le sud-ouest africain, devenu Namibie après l'indépendance du pays en 1990. En riposte à la révolte des Hereros, le général von Trotha substitue à l'idéologie coloniale de l'exploitation par le travail l'idéologie génocidaire de l'annihilation. Cette logique de l'extinction est également celle qui a prévalu dans le cas des États-Unis qui ont exterminé les Indiens d'Amérique du Nord. D'un autre côté, le génocide par les indigènes, cette fois, a pour exemple l'éradication des Tutsis par les Hutus, qui se considèrent comme les premiers habitants de la région, ainsi que l'histoire imaginé par le colonisateur belge l'a enseigné, ce que des études ultérieures démentiront d'ailleurs. La revendication d'autochtonie des Hutus se double d'une volonté de revanche contre les Tutsis sur lesquels l'administration coloniale s'est appuyée pour gouverner. Il est remarquable que cette idéologie qu'on appelle nativiste, qui établit la légitimité d'un groupe sur son antécédence sur le territoire et qui a gagné une grande partie des sociétés contemporaines, trouve son origine aux États-Unis, au début du XIXe siècle, avec un mouvement politique hostile à l'immigration catholique et affirmant la primauté des autochtones protestants, sans la moindre référence au fait que bien avant eux, le pays était habité par des populations amérindiennes qu'ils ont chassées et éliminées. Ainsi, les États-Unis réunissent-ils les deux identifications, coloniales et nativistes. Une approche différente, plus ethnographique, j'ai parlé jusqu'à maintenant d'historiens, est développée dans les recherches ultérieures qui bénéficient d'une certaine distance temporelle permettant des entretiens moins douloureux et surtout un accès au procès et à leurs minutes. C'est le cas de l'ouvrage de l'historienne chercheuse au CNRS Hélène Dumas dans « Le génocide au village », publié en 2014, qui se focalise sur une ancienne commune au nord de la capitale, dans une zone où se combinent les logiques guerrières et génocidaires. Sans sous-estimer le projet politique d'extermination des populations Tutsis, dont on considère généralement qu'il était dessiné par le gouvernement Hutu avant l'avènement déclencheur qu'a été la mort du président dans l'attaque de son avion, l'autrice, Hélène Dumas, s'attache à comprendre la mécanique micro-locale des violences, en insistant notamment sur deux éléments. Premièrement, le génocide est une affaire de voisins et de parents. Une femme explique comment son mari l'a encouragée à se cacher chez un ami habitant près de chez eux, dont elle a découvert qu'il a pillé sa maison et qu'il l'a plus tard dénoncé au tueur. Une autre raconte que l'homme que son mari avait aidé financièrement pour qu'il puisse payer la scolarité de son fils et auquel ils ont donc confié leurs deux enfants, les a lui aussi trahis en les livrant aux meurtriers. Les relations sociales du monde d'avant semblent soudainement abolies. Et deuxièmement, les génocidaires ne sont pas seulement des agents respectant un plan d'annihilation, obéissant aux ordres de leur chef et craignant pour leur propre vie. Ils éprouvent une jouissance dans la souffrance et l'humiliation de leurs victimes. Les crimes excèdent souvent la simple mise à mort. Un homme est ainsi battu, torturé, poussé dans une fosse septique où ses trois très jeunes enfants sont à leur tour jetés après avoir été frappés, tous étant ensuite enterrés vivants. La cruauté devient un élément fondamental permettant de comprendre les mises à mort. Mais ni le recueil de récits de Lauchtor, ni l'enquête sur le terrain de Listor ne se substituent bien sûr au témoignage plus traditionnel du superstès qui a traversé l'épreuve du génocide et du testis qui a vu les scènes de violence. Après le génocide des Tutsis, ce sont, parmi quelques autres, Yolande Mukagasana avec « La mort ne veut pas de moi », Annick Kayitetesi avec « Nous existons encore », Esther Mujawayo avec Survivante, Rwanda 10 ans après le génocide, et plus récemment Dorcy Rugamba avec Ewa Rwanda, Lettre aux absents, qui raconte souvent, chacun, en collaboration avec un co-auteur ou une co-autrice, leur expérience. Dans cette littérature, bien plus rare que ne l'a été celle de la destruction des Juifs d'Europe, mais aussi bien plus abondante que ne l'a été celle de la destruction des Roms d'Europe, l'ouvrage de Beata Umubieyi Meres, Le Convoi, publié en 2024, se distingue par le travail de reconstitution qu'elle a opéré et le souci de réflexivité qu'elle manifeste. Elle se souvient d'avoir lu une phrase de Toni Morrison. S'il y a un livre que tu voudrais lire mais qui n'a pas encore été écrit, alors tu dois l'écrire. Et avoir alors réalisé qu'elle cherchait, dit-elle, le livre que je voudrais tendre à celles et ceux pourtant proches et bienveillants qui m'ont donné le sentiment de ne pas être prêt à lire un témoignage. Elle veut donc écrire, dit-elle, pour celles et ceux qui répètent « c'est indicible » sans jamais vraiment y penser. contre celles et ceux qui soit oublient qu'elle est une survivante lorsqu'ils l'invitent à parler devant une classe, soit la soupçonnent de vouloir se réduire à un rôle de rescapée, soit même lorsqu'elle propose un livre, lui disent que le créneau est déjà pris, dans la mesure où il y a déjà une écrivaine rwandaise dans le paysage éditorial. Dans ses remarques pointe l'expression subreptice d'une discrimination, car il est difficile d'imaginer de semblables oublis, soupçons ou références à la saturation du paysage éditorial par une autrice ou un auteur dans le cas des témoignages concernant la Shoah. C'est ce que les psychologues qualifient de micro-agression. Elles prennent en l'occurrence la forme de micro-invalidation, délégitimant l'expérience africaine du génocide. Écrite 3 décennies après les faits, sur la base de notes prises et de souvenirs rassemblés, le titre de son livre, Le Convoi, qui se réfère à l'opération de sauvetage d'un groupe d'enfants Tutsi organisée par l'association Terre des Hommes, dont elle faisait partie du convoi, ne peut manquer d'évoquer à une audience occidentale, et Beata Umubeyi Meres le sait, les convois de la mort, qui conduisaient les prisonniers dans les camps de concentration et d'extermination nazis. Mais dans son cas, dit-elle, c'est un convoi de la vie. Son récit de ce moment émouvant et des semaines tragiques qui l'ont précédé n'arrive toutefois qu'au tiers du livre, avec des guillemets, se présentant comme l'exposé qu'elle fait devant des lycéens du sud de la France. Âgée de 15 ans, lorsque les violences commencent, elle vit seule avec sa mère à Boutaré, dans une maisonnette, jouxtant un hôtel dont les employés les invitent à se réfugier. D'abord dans une chambre, puis dans une cave humide et froide, fourmillant d'énormes cafards. Macabre ironie qui n'échappe pas à l'autrice, puisque c'est précisément le nom de cet insecte que leur donnent les Hutus dans leur mortelle entreprise de déshumanisation. Terrées dans cet endroit sinistre, affamées, effrayées, elles attendent une mort dont elles apprennent qu'elle frappe partout autour d'eux. Un jour, au troisième mois de tuerie, que par une euphémisation classique dans ces situations, les génocidaires désignent comme leur travail. Elles sont découvertes par un groupe d'hommes armés dont les vêtements sont couverts du sang de leurs victimes. L'adolescente a alors une intuition salvatrice et elle s'adresse en français au chef de la meute, comme elle l'appelle. Elle est en effet métisse, a été à l'école internationale belge et elle invoque le nom de François Mitterrand que les génocidaires considèrent comme leur ami. Le commandant, dont elle apprendra plus tard qu'il était étudiant à l'université, décide de l'épargner, ainsi que sa mère et une autre femme qu'elle a fait passer pour sa tante. Deux jeunes hommes présents n'ont pas cette chance, ils sont assassinés. Sauvée par sa vivacité d'esprit autant que par sa couleur de peau, la jeune fille est recueillie par une religieuse qu'elle connaît avec d'autres enfants dont beaucoup sont blessés. Dans le dortoir, elle voit un jour qu'on amène une jeune femme inconsciente, ramassée dans la rue, dont elle remarque, dit-elle, le pagne souillé de sang au niveau du bas-ventre et dont elle imagine avec stupeur, je la cite encore, ce qu'ils lui ont fait subir d'irrémédiable. Finalement, elle est intégrée avec sa mère dans un groupe d'enfants que des humanitaires accompagnés de journalistes évacuent en camion vers le Burundi sous la protection du préfet Hutu de Boutaré, qui sera plus tard accusé par le Tribunal pénal international pour le Rwanda d'avoir été l'un des ordonnateurs des massacres de Tutsi dans sa ville. Dans son livre, Beata Umubeyi Meres apparaît donc à la fois comme une rescapée, superstesse, qui raconte comment elle a survécu à la tragédie, et comme une spectatrice, testis, qui dit ce qu'elle a vu des crimes commis. Mais elle n'est pas que cela, car elle explore des archives et conduit des entretiens, mène une enquête sur l'organisation qui l'a sauvée, sur les différents convois dont tous n'ont pas eu le dénouement heureux du sien. S'interroge sans juger sur l'agent humanitaire qui a sauvé nombre d'enfants Tutsi, mais a témoigné pour le préfet Hutu de Boutaré. En somme, elle se fait l'historienne de son histoire, l'histoire. En revanche, elle répugne à faire acte d'autorité. Elle interrompt son récit par des doutes sur ses souvenirs, des réponses aux questions que lui posent les lycéens, des excuses qu'elle trouve aux employés de l'hôtel qui, après les avoir aidés, les ont probablement livrés aux génocidaires, Et donc, elle se refuse à être l'auctor, combinaison de réflexivité et d'intégrité. Une dernière figure du témoin doit être mentionnée. En Grèce ancien, martus signifie le témoin, le mot pouvant être utilisé dans des formules telles que faire apparaître quelqu'un comme témoin ou bien prendre quelqu'un à témoin. Dans le premier cas, il s'agit d'une personne qui a vu, qui peut donc attester d'un fait passé. Dans le second, il s'agit d'une personne qu'on sollicite, qui pourra attester dans le futur. Mais il y a un autre sens, plus spécifique, qu'on trouve dans la Bible, notamment dans l'Ecclésiaste et dans les Actes des Apôtres, et qui a connu un développement ultérieur important. Le martus est le témoin de Dieu, c'est-à-dire le martyr, celle ou celui qui a accepté de mourir pour attester de sa croyance. Comme l'écrit le philosophe italien de l'Université de Venise, Giorgio Agamben, dans « Ce qui reste d'Auschwitz », paru en 1998, de ce mot « martus », les premiers pères de l'Église tirèrent le terme « martyrium » pour désigner la mort des chrétiens persécutés qui témoignaient par là de leur foi. En fait, le mot latin « martyrium » signifie à la fois le supplice infligé au martyr et le lieu où il est enseveli, alors que la personne qui subit cette persécution est en latin « martyr ». L'auteur ajoute « La lecture des premiers textes chrétiens sur le martyr, par exemple le Scorpias de Tertullien, nous apporte des lumières inattendues. Les pères devaient affronter des groupes hérétiques qui réfutaient le martyr parce qu'il constituait une mort tout à fait insensée. Quel sens y avait-il à professer la foi devant ces hommes, les persécuteurs et les bourreaux, qui n'y comprenaient rien ?» Et il conclut « La doctrine du martyr est donc née pour justifier le scandale d'une mort insensée, invitant ainsi à trouver une raison à la déraison. » Ce qui amène Giorgio Agamben à établir un rapprochement avec les camps de concentration et d'extermination nazis pour lesquels il ne faut pas rechercher un sens, et ce d'autant que ceux qui ont tenté de donner une signification au génocide en popularisant le mot « holocauste », comme l'a fait Elie Wiesel, qui l'a plus tard regretté, laissent entendre que la destruction des Juifs d'Europe est un sacrifice, raison pour laquelle on utilise en français le mot hébreu « Shoah », catastrophe, et non le mot « holocauste », comme en anglais. En arabe, comme en grec, le mot « shahid » signifie de même le témoin dans un sens générique, dont il existe de nombreuses occurrences dans le Coran, et aussi plus spécifiquement « martyr », celle ou celui qui meurt pour attester sa foi. Le spectre du martyrologe est cependant plus étendu pour les musulmans qu'il ne l'est pour les chrétiens. Il inclut celles et ceux qui meurent au combat pendant le djihad. En Palestine, la figure du « shahid » a connu un développement important à mesure que l'oppression israélienne se faisait plus ressentir dans les territoires occupés. Et la professeure de sociologie politique à l'Institut national des langues et civilisations orientales, l'INALCO, Laetitia Bucaille, décrit à cet égard la figure du martyr comme ciment de l'unité nationale. Le shahid désigne de manière indifférente linguistiquement deux réalités distinctes empiriquement. D'une part, la personne qui est tuée par des soldats dans le cadre d'une opération militaire ou par des colons dans le cadre d'un pogrom dans un village. D'autre part, la personne qui meurt dans le contexte d'une attaque contre l'armée ou la population israélienne, que le moyen en soit de jeter des pierres ou de se faire exploser. Dans le premier cas, c'est une victime qui succombe sans l'avoir choisie. Dans le second, c'est un combattant qui savait le risque qu'il courait. Ce dédoublement du martyr comme victime qui est malencontreusement tombé sous les tirs ou écrasé sous une bombe et comme combattant qui s'est exposé volontairement pour la cause de son peuple en étend et en transforme le sens. Il l'étend du sacrifice librement consenti à la mort subie, il le transforme du strictement religieux au politique. Tout Palestinien abattu ou exécuté par les Israéliens est un shahid qui, par sa mort, dans un affrontement inégal, atteste son appartenance à sa communauté et témoigne de la brutalisation de l'ennemi. L'intifada al-Aqsa, sur laquelle j'ai conduit des recherches autour du traumatisme du côté à la fois palestinien et israélien, illustre dramatiquement cette évolution. Elle commence, on le sait, le 28 septembre 2000, avec la visite d'Ariel Sharon sur l'esplanade des mosquées, qui est vécue comme une provocation par les Palestiniens, à un moment où il est apparu que le gouvernement israélien n'entend pas respecter les accords d'Oslo signés 7 ans plus tôt. Dans les années qui suivent, plus d'un millier d'Israéliens sont tués, dont 2/3 de civils, le plus souvent dans des attentats suicides, et près de 5000 Palestiniens sont tués également, dont 1/3 de combattants. Lors de ce soulèvement, les adolescents jouent un rôle important, étant à la fois très présents dans les manifestations et très visibles dans l'espace public national et international. Mais au-delà de cette signification politique collective, il faut aussi comprendre que le sacrifice de ces garçons, et du reste également des adultes, femmes et hommes, qui commettent des attentats suicides, a une signification politique individuelle. Pour chacun d'eux, la vie risquée ou la mort choisie est la seule réponse possible à une situation devenue intolérable et à un conflit par trop asymétrique. Se sacrifier devient un geste d'ultime résistance, un geste d'affirmation de soi, un acte désirable. Dans l'imaginaire des jeunes Palestiniens, tels que révélés dans les chroniques publiées par Médecins sans frontières en 2002, dans les entretiens réalisés avec des fillettes d'une dizaine d'années et dans les dessins réalisés par des enfants, mourir en martyr est un destin souvent envisagé. Contrairement cependant à l'interprétation que donne Giorgio Agamben du martyr chrétien des premiers siècles de notre ère, il ne s'agit plus du scandale d'une mort insensée que viendrait signifier le sacrifice de la vie, mais pour les martyrs palestiniens contemporains, le scandale d'une vie impossible à quoi la mort viendrait tragiquement redonner du sens. C'est cette ultime quête de sens dont les bombardements incessants et le siège implacable de la bande de Gaza ont privé les Palestiniens depuis le 8 octobre 2023, leurs morts étant enfouis sous des décombres d'immeubles, écrasés sous des chenilles de bulldozers, jetés dans des fosses communes, séquestrés par l'armée ennemie et pour la majorité d'entre eux réduits à des statistiques de décès. Extinction programmée du statut de chahide ? Peut-être pas. Si l'on prête attention au testament de la photojournaliste Fatima Hassouna, assassinée quelques jours avant son mariage avec toute sa famille par l'armée israélienne le 16 avril 2025, je la cite, « Quant à la mort qui est inévitable, si je meurs, je veux une mort retentissante. Je ne veux pas être une simple brève dans un flash info, ni un chiffre parmi d'autres. Je veux une mort dont le monde entier entendra parler, une empreinte qui restera à jamais, des images immortelles que ni le temps ni l'espace ne pourront enterrer. » Éclatant ultime témoignage. En conclusion, le témoignage n'est pas seulement pour s'exprimer, la parole et l'écrit, voire, dans le cas du martyr, le corps. Il peut aussi faire appel à des médiations dans lesquelles les technologies peuvent être mobilisées. Ces médiations ont une longue histoire. Elles se déploient à travers l'archéologie, la photographie, l'enregistrement, le cinéma, les radiographies, les tests biologiques, la médecine légale et bien d'autres procédures. L'entreprise la plus innovante et la plus passionnante a été lancée en 2010 par Forensic Architecture à Goldsmith College, de l'Université de Londres, par l'architecte britannique et israélien Eyal Weissman. L'agence se donne pour objectif, je cite, « de développer, utiliser et disséminer des techniques, des méthodes et des concepts pour conduire des investigations sur la violence d'État et la violence en entreprise ». Pour ce faire, les chercheurs, journalistes, juristes, cinéastes, informaticiens impliqués dans ce projet ont conçu des combinaisons de technologies, y compris l'imagerie spatiale par satellite, les caméras de surveillance, les enregistrements audio et vidéo, les témoignages individuels et collectifs, permettant de reconstituer en 3 dimensions des événements au cours desquels des formes diverses de violence ont été exercées et qui ont fait l'objet d'un travail d'occultation. Parmi les nombreux cas étudiés, recréés par l'image, portés à la connaissance du public, parfois présentés à la justice, parfois exhibés dans les musées, certains sont historiques, d'autres récents. Le génocide des Herero et Nama par les Allemands à partir de 1904 dans l'actuelle Namibie. Les massacres commis par l'État d'Israël pendant la Nakba en 1988. L'assassinat d'otages par l'armée colombienne après la prise du palais de justice de Bogota en 1985. Le meurtre de Mark Dugan par la police britannique à Londres en 2011. La pulvérisation d'herbicides par l'armée israélienne sur les champs de Gaza depuis 2014. Les exactions perpétrées contre les yézidis par l'État islamique en 2015. L'utilisation d'armes européennes dans le bombardement du Yémen à partir de 2015. L'intervention des gardes-côtes libyens pour empêcher une opération de secours en Méditerranée en 2017. Les refoulements de migrants à la frontière entre la Turquie et la Grèce en 2019. La répression des manifestations de Black Lives Matter aux États-Unis en 2020. Les centres de torture des opposants du Myanmar en 2021. L'attaque de la tour de télévision de Kiev par la Russie en 2022. Le naufrage de l'Adriana avec à son bord 700 migrants au large de la Grèce en 2023. L'invalidation des documents visuels présentés pour sa défense par Israël à la Cour internationale de justice en 2024. Et en France, la mort d'Adama Traoré lors de sa garde à vue à la gendarmerie de Beaumont-sur-Oise et de Zineb Redouane par un tir de grenade dans son appartement à Marseille en 2018. Si j'ai présenté cette longue énumération, qui ne correspond d'ailleurs qu'à une petite partie des enquêtes conduites par Forensic Architecture, c'est pour souligner la diversité des situations analysées sur toute la planète. L'essaimage de cette technologie dans des agences et des institutions à travers le monde permet que de nombreuses violences soient révélées, des crimes de guerre identifiés, des coupables reconnus, des versions officielles démenties, certaines vérités dites et la justice parfois rendue, grâce à cette nouvelle manière d'attester qui vient renforcer, enrichir et parfois même remplacer le témoignage humain. Mais l'attestation par des êtres humains demeure cependant essentielle, dont 5 figures de témoins ont pu être esquissées. Le testis, présent au moment des faits qu'il peut raconter, le superstes, survivant, qui peut transmettre ce qu'il a vécu, l'auctor, agent extérieur qui apporte aux deux précédents la valeur ajoutée de sa crédibilité, l'histor, expert légitime qui conduit une enquête susceptible de valider et de contextualiser les autres, le martus, enfin, victime sacrificielle qui affirme la justesse de sa cause par ce renoncement. Chacune d'elles engage des formes politiques et morales, la véracité du testis, l'authenticité du superstes, l'autorité de l'auctor, la neutralité de l'histor, l'engagement du martus. Autant d'expressions de la vérité de ce que Michel Foucault appelle le dire vrai et le dire juste. Deux formules qu'il faudrait prendre ici dans toute leur polysémie, en ne les limitant pas comme il le fait au domaine de la justice, mais en incluant toutes les manières de dire vrai et de dire juste dans les témoignages de la violence, par sa parole, par ses écrits, par sa traduction, par ses investigations, par le sacrifice de sa vie. Ces 5 figures, on l'a compris, sont avant tout précisément cela, des figures, qu'en langage weberien, on appellerait des idéotypes. Car dans la réalité, c'est-à-dire dans l'expérience des témoins et dans leurs écrits, ces figures se mêlent, se combinent, se déplacent, se complexifient. C'est cette complexité que j'ai voulu restituer. Au-delà de ces différences et de ces variations entre les figures du témoin, l'enjeu du témoignage, c'est de faire exister une vérité, et notamment, il faut y insister de nouveau, de la faire exister contre la dissimulation, l'invisibilisation, la dénégation, autrement dit, contre celles et ceux qui détiennent ou ont détenu des pouvoirs et ont souvent intérêt à ce que les violences qu'ils ont perpétrées ne soient pas connues. C'est dire l'importance de celles et ceux qui ont pour projet de révéler la vérité, ou tout au moins une part de la vérité à laquelle ils ont eu accès. Je vous remercie. Bien, nous reprenons donc dans une quinzaine de minutes revenez pour l'exposé de la professeure Raphaël Branche de l'Université de Paris-Nanterre.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr. les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.